On retrouve maintenant notre série intitulée Vers le succès et la reconnaissance, une série dans laquelle nous vous proposons de découvrir les histoires inspirantes de femmes qui se sont imposées, et ce, dans des professions autrefois réservées aux hommes, ainsi que les pionnières qui ont ouvert la voie aux femmes de la génération d'aujourd'hui. Nous nous intéresserons donc à leur expérience, leur succès, aux défis, ainsi qu'aux préjugés auxquels certaines d'entre elles font toujours face. Après une pilote de chasse, puis une diplomate, c'est cette fois à Yarmila Heysigerova. Yarmila Heysigerova, qui est à la tête du plus grand département d'ophtalmologie de Tchéquie et qui est professeure à l'Université Charles, que nous nous intéressons. Yarmila Heysigerova est également mère de 3 enfants et trouve le temps de s'adonner à son passe-temps favori, à savoir les claquettes, des claquettes qu'elle pratique de manière quasi professionnelle avec son mari. Alors, comment fait-elle pour tout mener de front ? Yarmila souligne qu'elle a eu de la chance en choisissant un bon mari, bien évidemment, mais c'est aussi en grande partie grâce à sa motivation intérieure que Yarmila Heysigerova ne cesse de repousser ses limites pour avancer. Nous sommes maintenant donc en compagnie de Yarmila Heysigerova, qui, à l'âge de 16 ans, a vécu une expérience traumatisante. On vous a en effet diagnostiqué une maladie oculaire incurable, une maladie qui aurait pu vous rendre aveugle. Alors, cette expérience a-t-elle influencé votre choix de profession ?
C'était juste avant le baccalauréat. J'ai vraiment eu peur de ne pas pouvoir finir le lycée, car du jour au lendemain, j'ai cessé de voir d'un œil. Seule ma vision périphérique fonctionnait. Ailleurs, je ne voyais plus qu'une énorme tache noire. Et malheureusement, l'œil malade gâchait aussi la vision de l'autre œil. J'ai donc immédiatement consulté un ophtalmologue. Comme ils n'ont rien trouvé sur le fond de ma rétine, ils ont pensé que je faisais semblant. C'était également très dur à vivre. Puis ils m'ont envoyé quand même à l'hôpital universitaire. C'est drôle de se dire que je dirige d'ailleurs cette clinique aujourd'hui. En tout cas, c'est là qu'ils ont découvert mon problème. À l'époque, il était impossible d'effectuer un certain nombre de tests génétiques qui sont aujourd'hui courants. Ils ont donc décrété que j'avais une maladie congénitale de la rétine. Je suis reconnaissante au destin de m'avoir rendu la vue, car finalement, en 3 mois, j'ai retrouvé une vision normale et je n'ai plus jamais eu de problème depuis. Cette expérience a donc été très marquante pour moi et a peut-être motivé mon choix de carrière, même si je n'en suis pas tout à fait sûre.
Yarmila, aujourd'hui en tant qu'ophtalmologue et professeur, savez-vous ce qui vous est arrivé à l'époque ?
Mám několik teorií.
Alors, j'ai quelques hypothèses. Il existe plusieurs maladies oculaires très rares qui se manifestent par ce que nous appelons un scotome noir, c'est-à-dire une perte de champ visuel, même transitoire, chez les jeunes femmes âgées de 16 à 30 ans et en particulier chez les femmes qui sont myopes. Or, j'ai un œil qui est myope. Il pourrait donc s'agir d'une maculopathie, souvent d'origine auto-immune. Elle peut être causée par une sorte de trouble immunitaire qui vient perturber la fonction de la rétine pendant un certain temps, mais heureusement, c'est un processus qui est réversible.
Vous avez mentionné la myopie qui affecte un de vos yeux, mais vous ne portez pas de lunettes. Avez-vous subi une intervention chirurgicale ?
Non, je n'en porte pas. J'ai 0 dioptrie dans un œil et moins 2,5 dans l'autre. Un ophtalmologue qui dirigeait une nouvelle clinique avec de la chirurgie laser a proposé de m'opérer. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir évité l'opération car j'ai un œil qui voit au loin et l'autre de très près. En fait, je n'ai pas du tout besoin de lunettes grâce à ce qu'on appelle la monovision. Chaque œil voit différemment.
Quelle est la taille de l'équipe que vous dirigez et qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de gérer une clinique ?
My máme zhruba 120 zaměstnanců, naše klinika.
Notre clinique compte environ 120 employés, plus de 60 infirmières, environ 50 médecins. Mais tous ne travaillent pas à plein temps. En d'autres termes, nous avons 50 médecins, mais en réalité, nous avons 26 emplois, ce qui fonctionne très bien. Il s'agit d'un collectif relativement important. Lorsque j'ai commencé à diriger la clinique, le 1er février 2016, je pensais que sa gestion serait davantage de nature financière et économique. Mais dès la première semaine, j'ai réalisé qu'en réalité, j'allais essentiellement m'occuper des gens et de leurs problèmes. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me voir pour me dire qu'il envisage un poste de direction dans une autre clinique ou qu'il veut devenir médecin-chef, je lui dis toujours « Soyez prudent, sachez que vous devrez avant tout vous occuper des gens. Si vous en êtes capable, foncez, sinon ne le faites pas. C'est vraiment un métier avec les gens et pour les gens. »
Jestli dobře řešíte lidi, jděte do toho, ale jinak opravdu je to práce s lidmi a pro lidi.
Avec tout ça, vous reste-t-il du temps pour la chirurgie et la recherche?
Mám jeden den operační, pak mám dva dny ambulantní a potom...
J'ai un jour par semaine qui est dédié à la chirurgie, puis deux jours de consultation externe et tout ce qui reste de cette semaine est consacré à la recherche et à la gestion des ressources humaines. En ce qui concerne la recherche, la professeure Petra Svozilkova et moi-même, nous formons l'équipe qui a créé le premier prototype d'inflammation oculaire en Tchéquie. Nous l'avons copié sur un prototype utilisé avec succès à Aberdeen et qui a été mis au point en Amérique. Cela fait 13 ans que nous travaillons et faisons des recherches. Nous avons obtenu notre première petite subvention de manière tout à fait inattendue. Elle s'est transformée en une série de subventions. Puis nous avons fini par nous concentrer sur le rôle du microbiome dans les maladies et l'inflammation oculaire. Nous encadrons un certain nombre de jeunes gens et c'est un travail magnifique que de les diriger, de voir les résultats de leurs expériences, de les présenter lors de conférences internationales et d'écrire ensemble des articles qui montrent les résultats de notre équipe.
Výzkumu genetika a záněty a nádory a vliv mikrobiomu na tato onemocnění.
On en a beaucoup parlé le 24 février dernier, a marqué les 3 ans du début de la guerre en Ukraine. Votre clinique Jarmila Hejsigerová est-elle le pays en guerre?
Určitě, my vlastně od začátku Ukrajinu velmi podporujeme.
Tout à fait. Dès le début, notre hôpital a apporté son soutien à l'Ukraine, notamment en employant un certain nombre de ressortissants ukrainiens et surtout en mettant à disposition des services ambulatoires spécialisés avec des personnes parlant ukrainien. Nous avons aussi créé des formulaires pour que les réfugiés puissent bénéficier de tous les soins de santé dans notre hôpital. Les compagnies d'assurance ont permis aux Ukrainiens d'être opérés aux mêmes conditions que nos concitoyens. J'ai opéré la cataracte de plusieurs réfugiés. Leur vision était souvent un peu négligée. En Tchéquie, les gens se font opérer de la cataracte beaucoup plus tôt. Les patients venus d'Ukraine présentaient une dégradation beaucoup plus avancée, ce qui montre qu'ils n'avaient tout simplement pas accès aux soins, ou alors qu'en raison des problèmes dans leur pays, ils ont été opérés très tard. Je pense donc que nous avons fait de notre mieux. Et puis en ce qui concerne les soldats, un réseau d'hôpitaux sous la direction de l'hôpital militaire de Prague a été mis en place. Il est souvent arrivé qu'un message nous parvienne pour mener une intervention rapide, ce que nous avons fait.
Zrovna mohla, vím, že nás se to také týkalo, taky jsme takhle operovali.
Et puisque notre série est consacrée aux femmes, Jarmila, j'aimerais vous demander encore si vous êtes déjà sentie discriminée dans votre profession en raison de votre condition justement de femme.
Já osobně nikdy.
Personnellement, jamais. Au cours de mes études, j'ai rencontré quand même, par exemple, certains professeurs de chirurgie ou d'orthopédie qui se concentraient manifestement sur les garçons et qui avaient décidé que nous étions en quelque sorte des figurantes. On nous a même demandé comment cuisiner des knedlíky pendant nos examens d'état. Je ne pense pas que de nos jours ce serait possible. En ce qui me concerne, quand j'ai rejoint la clinique, le chef de l'époque était le professeur Martin Filipetz. Il était extrêmement ouvert, il élargissait nos horizons et il nous a donné toutes nos chances. Je n'ai pas eu l'impression d'être freinée par le fait d'être une femme et j'en suis extrêmement reconnaissante. Ensuite, je suis revenue. Cette fois, c'était sous la direction d'Eva Jihova, qui était professeure associée. Elle nous a également beaucoup aidés, beaucoup appris. En tant que directrice et professeure, je n'ai pas plus le sentiment d'une discrimination. Mais c'est vrai que si vous regardez le conseil scientifique du premier hôpital universitaire, il n'y a pas si longtemps, il y avait 57 ou 58 membres et 7 d'entre eux étaient des femmes. Donc il y a là un déséquilibre flagrant, mais je ne pense pas que ce soit parce que le doyen ou le recteur ne veulent pas de femmes. C'est plutôt le fait que les femmes accèdent à des postes scientifiques de haut niveau, peut-être un peu plus tard, parce qu'elles ne viennent pas nécessairement d'un milieu familial très favorable.
Možná trochu později, protože mají třeba ne tak příznivé domácí prostředí.
Alors, à côté de votre carrière professionnelle que nous venons d'évoquer, vous avez également trois enfants. Est-ce que la famille a représenté un frein à votre carrière?
Já jsem asi měla hrozný štěstí i na výběr manžela, protože mě vždycky...
Je pense que j'ai eu beaucoup de chance en choisissant, en trouvant mon mari, car je me suis toujours sentie soutenue à la fois par lui, par ma famille, mais aussi par la sienne. Ainsi, lorsque j'étais enceinte de mon deuxième enfant et qu'Eva Rihova a suggéré que je rédige ma thèse d'habilitation pour un poste de professeur associé, ma famille a tout organisé pour que je puisse écrire ma thèse alors que mon enfant était âgé d'un an à peine. Ils m'ont donc incroyablement soutenue. J'ai passé mon doctorat alors que j'étais encore en congé maternité et parental. Alors que j'avais un jeune enfant, on m'a proposé aussi d'auditionner pour une chaire. J'ai consulté ma famille, j'avais déjà eu mon troisième enfant et Yasmina n'avait que 5 ans lorsque j'ai décidé de devenir médecin-chef. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui le soutient comme ça.
Trois enfants, une fonction de directrice, et à côté de tout cela, vous avez également des loisirs très intéressants. Yarmila Isigarova, vous chantez en effet depuis l'âge de 5 ans et vous faites également des claquettes.
Ten zpěv mě provázel zhruba do těch 20 let. Celé dětství jsem prospívala.
J'ai chanté jusqu'à l'âge de 20 ans environ. J'ai fait des tournées à l'étranger avec un chœur d'enfants et j'en garde d'excellents souvenirs. J'ai commencé à faire des claquettes à l'âge de 18 ans et j'ai rencontré des gens dans ces groupes, dont mon mari. Avec lui, nous avons formé plusieurs duos et nous avons même remporté la première place au championnat national. Dès que nous avons commencé à danser, nous avons remporté tous les championnats et toutes les compétitions. Une fois, nous avons même été nominés pour les championnats du monde. Et puis, lorsque nous avons emménagé dans notre maison, où il était possible de créer notre propre salle de danse, mon merveilleux mari a tout organisé. Nous avons donc une belle salle de danse où nous donnons des cours de claquettes depuis des années. J'ai donné des cours à des enfants ou encore à des niveaux intermédiaires. Mon mari, pour sa part, enseigne aux plus avancés et il donne aussi des leçons individuelles parce qu'il est meilleur en claquettes. Nous y avons également initié nos propres enfants, et ce dès la maternelle, alors qu'ils marchaient à peine. Nos enfants ont aujourd'hui 14, 16 et 18 ans et seule ma fille de 14 ans pratique encore activement les claquettes. Les garçons qui font des claquettes à la perfection se sont un peu plus tournés vers d'autres passe-temps, c'est plutôt la guitare électrique, mais étonnamment, ils jouent aussi les Beatles.
C'est une électrique guitare, mais surprenamment, ils jouent les Beatles.
Dernière question, Yarmila, si vous aviez l'occasion de rencontrer un grand médecin du passé, pas forcément une femme d'ailleurs, de qui s'agirait-il?
Tak bych si asi strašně ráda promluvila s první na Univerzitě Karlově promovanou lékařkou v roce...
Je pense que j'aimerais parler avec la première femme médecin diplômée de l'Université Charles en 1902, Anna Honzakova. Selon moi, c'est une personne qui a dû faire preuve non seulement d'intelligence, mais carrément de génie pour réussir à mener sa barque, malgré les préjugés. Elle devait avoir une personnalité incroyablement forte. J'aimerais donc la rencontrer et entendre sa passion pour la médecine, et ce, malgré les obstacles. Elle a ouvert la voie à de nombreuses autres femmes tchèques. Imaginez qu'en tant que femme, je ne suis pas seulement médecin, mais je suis aussi professeure à l'Université Charles. Je dirige une clinique et je fais partie d'un conseil scientifique. Autrefois, les femmes ne pouvaient même pas rêver d'arriver là où j'en suis. Je parle au nom de toutes les femmes, je pense, en disant que nous sommes extrêmement reconnaissantes à ces pionnières qui nous ont ouvert la voie.
Voilà, c'était donc Yarmila Heissigerova, professeure à l'Université Charles et surtout directrice du plus grand département d'ophtalmologie de Tchéquie. Yarmila Heissigerova répondait aux questions de notre collègue de la rédaction russe, Katarzyna Heispourvit, et sa voix était doublée par Anna Kubishta.